Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre. Au micro, cette semaine, je reçois Gilles Béru. Bonjour Gilles Béru.
Bonjour.
Présentez-vous en quelques minutes.
Oui, eh bien, je suis au pèlerinage du Rosaire avec deux casquettes, si j'ose dire. La première, c'est celle d'être un médecin gériatre et qui est également enseignant à l'Université de Nantes et chef d'un service de gériatrie. Et puis d'autre part, il se trouve que depuis août 2018, on m'a élu responsable des laïcs dominicains de la province de France. Et donc c'est avec ces deux aspects que je viens à ce rosaire qui est riche en rencontres et à travers ces conférences riches aussi en partage avec des personnes âgées, avec des professionnels de santé qui viennent, avec de jeunes médecins qui désirent se renseigner sur la gériatrie. Et donc, c'est vraiment un moment très, très important, un moment aussi de grâce de toutes les rencontres que l'on fait dans l'attente des laïcs dominicains, de personnes qui sont en recherche pour donner une coloration à leur itinéraire de foi. Et ces partages aussi sont très riches.
Dans ces premières minutes et ce premier entretien, Gilles Béru, une simple question, mais grande question, qu'est-ce que le vieillissement ?
Oui, c'est vrai que c'est une question importante. Une question finalement qui est plus difficile qu'elle n'en a l'air. Parce qu'on voit bien tous qu'est-ce que le vieillissement ? On voit une personne qui a des cheveux blancs, qui a quelques rides, qui marche un peu plus lentement, qui est de temps en temps un trouble de mémoire. On se dit, ben voilà, ça c'est le vieillissement. Mais en fait, ça a un peu changé avec ces dernières années où, finalement, grâce probablement à un service de santé au niveau national qui fonctionne bien, une qualité de vie, une hygiène de vie, une plus grande attention à sa santé, eh bien, on vit plus longtemps et en meilleure forme. Et les personnes âgées, finalement, se sont changées.
C'est-tu plutôt une bonne nouvelle ?
Ben oui, c'est une très bonne nouvelle, en fait. Et c'est pour ça que j'ose dire que la longévité, c'est-à-dire cette période de la vie où on vit longtemps, est plutôt en bonne santé et ça devient une chance.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une deuxième vie pour ces personnes âgées ?
Tout à fait, tout à fait. C'est une autre partie de la vie.
Alors on vit comment dans cette deuxième vie ?
Alors en fait, cette deuxième vie, on va dire que c'est la vie après le travail. Et le « après le travail » change beaucoup d'une personne à une autre. C'est-à-dire que pas mal de personnes ont arrêté de travailler vers 55 ans. On a un âge légal qui est situé à 62. Mais d'autres, pour avoir toutes leurs mensualités, s'arrêtent plutôt à 63, 64. Donc on a une espèce de zone floue qui est la période du départ du travail. Et après, on a une vie plutôt en bonne santé. Même si de temps en temps, il y a une hypertension, un diabète, quelque chose, mais globalement, ça ne nous empêche pas de vivre. Et puis, finalement, on vit jusqu'à 85, 86 ans, les problèmes de dépendance survenant tardivement.
C'est cette bonne nouvelle qui annonce une deuxième vie, une vie créative, une vie active, une deuxième vie professionnelle presque, Gilles Béru.
Alors, en effet, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait de cette vie ? Comme on n'a pas été préparé, souvent les personnes disent « ben voilà, je pars à la retraite et je vais faire mon grand projet qui est un grand voyage ». Mais un voyage, ça dure un an. Mais on n'a pas un an devant soi, on a 20 ans. Et donc finalement, la question qui se pose, c'est quel est le projet de vie ?
Donc au fond, on peut entendre « il faut préparer et penser ce projet de vie ».
Alors à la fois, il faut préparer, en effet. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Il ne faut pas que ça soit le sauve-qui-peut de la vie d'avant. Ça qui est aussi une tentation forte. Par exemple, se dire « je vais partir au bord de la mer ». Oui, c'est bien, mais c'est bien parce qu'il y a la mer et quelquefois le soleil. Mais c'est mal parce qu'on n'a plus ses amis, on est complètement déraciné. Et ce sont des personnes qui, quelques années après, on les voit, ils sont très démunis finalement. Donc il faut se poser quand même les bonnes questions.
Et quelles sont ces bonnes questions à se poser ?
Se dire qu'on a 15 à 20 ans de vie.
Et qu'est-ce qu'on en fait ?
Et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire ? Comment ça rejoint notre itinéraire de vie ? Et c'est des questions qui sont assez profondes, en fait. parce que ça rejoint une question quelquefois qu'on n'a pas osé se poser pendant le travail, parce que c'est le travail qui nous a imposé l'emploi du temps, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je porte? Non pas une vie solitaire, sans tenir compte de l'environnement, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie dans le contexte dans lequel je la vis? Marié ou célibataire, avec ou sans enfant, etc. Tout ça, ça intervient avec un réseau d'amis. Voilà. Et se poser cette question d'une vie qui est dans un contexte, mais qui a un sens à nos yeux. Et puis, dans le régime de la foi, quel est le sens que je remets entre les mains du Seigneur? C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément ceux qui savent le mieux, finalement, ce qui est notre itinéraire. Il est aussi à découvrir. Donc, il y a ce travail-là qui est intéressant. Il faut voir, par exemple, que c'est vraiment un âge, les 60-70, c'est vraiment un âge de mutation et de bouleversement. Et il y a un des signes, c'est que ça devient, par exemple, l'âge de pic des divorces. Alors qu'avant, les divorces, c'était plutôt les 7 premières années ou les jeunes, etc. Mais en fait, il y a des personnes qui ont vécu séparées toute leur vie par le travail et qui ne savent plus vivre ensemble. Et on voit bien que c'est un signe indirect, que c'est une période de tremblement de terre dans les têtes, dans les corps, et que on se pose la question d'une manière différente. Il y a aussi la manière de percevoir son appartenance à la société, avec une société qui se dit que les vieux, en fait, ça coûte cher, point, mais qu'on rien trop à dire, finalement, des personnes âgées. Et on voit bien qu'il s'agit d'autre chose.
Vous soulevez ce rôle aussi un peu destructeur, non préparé peut-être, de ces personnes entre 60 et 70 ans qui arrivent à la retraite, qui, dans cette vie de couple, on ne se connaît plus, la vie professionnelle était omniprésente, on ne se connaît plus, on ne se parlait plus et on se sépare. Qu'est-ce que ça dit de, justement, cette tranche d'âge aujourd'hui ?
Je pense que quelquefois dans nos vies, et probablement vu la pression de l'immédiateté qui est provoquée par les smartphones, par tout ça, on ne se pose plus tranquillement les bonnes questions. Je disais à un ami, il existe les centres préparation mariage pour les couples de fiancés. Faudrait faire des centres de préparation à vivre en couple après le travail.
Et après la retraite, et au moment, de la retraite.
C'est ça. Comment on organise, par exemple, la vie à deux dans le périmètre de son appartement? Comment on fait pour répartir les surfaces, pour laisser à chacun un petit bout de surface personnelle où on y va seul, tout en ayant des lieux communs? Comment on réinvente, finalement, faire communauté? C'est des questions très simples, mais c'est essentiel.
Et des questions importantes.
Très importantes. Très importantes. L'espace privatif, ça peut être une table secrétaire dans un coin, c'est pas forcément une pièce. Mais il faut à la fois préserver la solitude qui est nécessaire, et de plus en plus quand on avance en âge, et en même temps, la vie à deux.
Alors une solitude parfois effectivement nécessaire et parfois une solitude subie aussi à cette période de la vie que vous évoquez, départ
ça,
à la retraite.
C'est un autre aspect de la solitude. On parle beaucoup de la solitude des personnes âgées, avec souvent des âges plus avancés que ce dont on parle là, c'est-à-dire après 75 ans. C'est une solitude alors qui est plutôt féminine, liée à des deuils, des séparations, puisque les femmes vivent 10 ans de plus que les hommes. Ce sont aussi des solitudes qui se font dans les deux sens. C'est-à-dire que quelquefois, on se sent moins fort pour aller vers les autres. Donc, il y a une solitude auto-entretenue. Quand on est seul, on n'est pas dérangé, donc on se sent rassuré. Et puis en même temps, y a la société qui ne s'occupe pas forcément de créer des lieux sociaux.
Pourquoi on a autant de mal d'en parler, Gilles Béru?
C'est vrai que le vieillissement, on a du mal à en parler, mais parce qu'on a une vision du déclin parce que notre appartenance à la société se fait par le travail. Et donc, quand on n'est plus au travail, eh bien, on se pose la question de l'appartenance à la société et la société se pose la question de l'appartenance des personnes âgées. Ce qui fait finalement un regard de discrimination négative qu'un universitaire américain qui s'appelle Butler a nommé l'âgisme. C'est-à-dire une sorte de racisme anti-vieux. Mais ce n'est pas parce qu'on veut faire du mal aux personnes âgées, mais on a un regard qui est négatif sur elles et ça nous empêche de réfléchir. Et je pense qu'il faut arriver à prendre conscience de cet âgisme qui nous habite collectivement, une sorte d'inconscient collectif négatif, et qui nous empêche finalement de prendre les bonnes directions, les bonnes mesures, les bonnes animations de territoire, etc.
Merci pour cette première intervention du jour, Gilles Berru. Je rappelle donc que vous êtes professeur donc d'un service du pôle de gériatrie au CHU de Nantes et actuellement en pèlerinage, conférencier pendant ce pèlerinage du Rosaire, et vous êtes responsable depuis quelques mois déjà des fraternités laïques dominicaines de la province de France. Rendez-vous demain, si vous le voulez bien, à la même heure.
À demain. Berru. Thank you.